Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Non. Tu veux savoir premièrement ce qu'il dit le texte, puis ce qu'il veut dire. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui s'applique à moi ou à l'autre? Qu'est-ce que ça veut me dire? Dans l'observation, quand je me suis arrêté pour observer le texte de Galates, j'ai remarqué qu'il y avait comme deux paragraphes importants. Puis, dans le deuxième paragraphe, donc un premier paragraphe, je retourne en arrière ici, deux paragraphes importants. Hein, du verset 1 au verset 10, c'est le premier paragraphe, puis du verset 11 au dernier verset, c'est le deuxième paragraphe. Fait que, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait comme deux idées principales. Hein, un paragraphe, c'est une idée. Quand tu écris une lettre, quand tu écris un texte, puis tu changes d'idée, tu changes de ligne, tu changes de paragraphe. Mais Paul faisait la même chose, sauf que dans le temps, ben, c'était pas écrit en paragraphe. Mais il y avait des idées. Il groupait quand même ses idées en morceaux. Surtout Paul. Paul, c'est un maître. C'est un génie de pouvoir fitter le contexte ensemble. Tu sais, Paul, c'est très rare, à part peut-être dans 2 Corinthiens, où est-ce que là, il est vraiment émotif. Mais dans ses autres épîtres, Paul, il est très, très systématique. Il va grouper ses idées ensemble. Le texte, ça fait du sens. C'est vraiment ordonné la manière qu'il écrit. Bon, dans 2 Corinthiens, oubliez ça, là, ça marche plus ou moins parce qu'il est trop émotif. Tu vois qu'il a de la misère à se contenir, puis bon, il a dû écrire la lettre très vite, puis sans vraiment réfléchir dans 2 Corinthiens. Mais pour Galates, en tout cas, pour Éphésiens, pour Romains, même pour 1 Corinthien, c'est très, très cohérent. Ça se tient, ça s'imbrique. Puis dans le premier paragraphe, ben, j'ai vu comme deux petits morceaux là, dans le premier paragraphe. Puis on va les regarder en détail, là, faites-vous-en pas. Mais je veux vous montrer que quand je joue avec un texte, quand je veux comprendre un texte, je dessine dessus, je la note, je surligne. Là, j'ai vu qu'il y avait comme une phrase ici qui avait comme un peu pas sa place là, mais il y a une raison qu'elle est là, puis on va voir tantôt pourquoi. Puis là, il y a un autre chunk, un autre morceau de texte après ça. Puis là, il finit avec sa conclusion, ses salutations. Puis on va... C'est comme ça qu'on joue avec un texte pour le maîtriser, le texte. Puis chaque fois qu'on écrit sur une feuille, qu'on dessine dessus, qu'on joue avec, c'est sûr qu'avec l'ordinateur, on est moins habitué à y aller papier, là. Mais je pense que c'est une bonne habitude de faire. Hein? Fait que ça, c'est le texte. Le premier, ça équivaut, là, à ce qui est en vert en haut, là. Ça, c'est le petit bout de texte de 1 à 5 là, que j'ai comme divisé, là, ben, je l'ai réécrit ici. Pour qu'on puisse le comprendre, le décortiquer. Fait que j'ai dit que le texte était le souci des autres. Fait qu'on va observer. Qu'est-ce que le texte dit? Première chose qu'il va dire, si un frère est pris en faute et si tu es spirituel, reprends-le. Donc, il va dire deux choses. Si tu vois qu'il y a un frère en faute, ou une sœur, hein, c'est pas juste les frères qui tombent en faute des fois, mais... Si tu es spirituel, reprends-le. Ça veut dire, mais comment tu vas le reprendre? Tu vas-tu aller l'engueuler? Non. Comment? Ça, c'est une question d'observation. Je sais que je vous ai dit l'observation, première étape, là. Mais ça, c'est une des questions. Comment est-ce qu'il va le reprendre? Hein? Avec un esprit de douceur. Tu commences pas à l'engueuler, tu commences pas à le menacer, tu commences pas à l'intimider, tu commences pas à essayer de jouer au bras de fer avec lui. Tu y vas avec un esprit de douceur. Puis il y en a plein d'autres questions d'observation qu'on aurait pu poser, que j'ai pas posé ce matin, parce que, évidemment, c'est pas une étude exhaustive de Corinthiens, de Galates, mais on aurait pu poser la question qui, quoi, quand, où. Ça, c'est toutes des questions d'observation. Quand tu arrives au texte, là, tu poses des questions au texte. Tu lui poses des questions au texte. Il y a des questions qui sont pas, peut-être pas nécessairement pertinentes, comme « où ». Ben, peut-être qu'au début de l'épître, ça aurait été intéressant de voir pour « où ». Mais peut-être pas à la fin de l'épître. Mais c'est pas grave. À un moment donné, quand tu lis ton texte, il faudrait peut-être que tu y penses. Quand Paul, au chapitre 2, parle d'aller à Jérusalem, ben c'est où Jérusalem? Pourquoi il va à Jérusalem? Moi, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? On pose la question où? Quand est-ce qu'il est allé à Jérusalem? Quand est-ce qu'il a écrit l'épître? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? C'est toutes des questions d'observation. Tu veux savoir qu'est-ce que le texte dit. OK? Maintenant, ensuite, il dit, portez les fardeaux les uns les autres. Là, je ne reprendrai pas tous les détails. Là. On va y aller plus vite un peu pour qu'on puisse voir comment le texte bouge un peu. D'accord? Alors, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, deux choses. Premièrement, il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire qu'on doit se soucier les uns des autres. Tu vois, quelqu'un a un fardeau, tu vas te soucier de l'autre, tu vas l'aider l'autre. Et vous accomplirez la loi de Christ. Pourquoi? C'est quoi la loi de Christ? Bien, c'est aimez-vous les uns les autres. Hein? S'aimer les uns les autres, comment ça se fait? C'est-tu juste en parole seulement? Ça, d'autres épîtres vont nous dire, non, pas en parole seulement. Tu n'aimes pas juste l'autre en parole. Tu vas agir pour l'autre. Tu vas porter ses fardeaux. Physique, s'il y a besoin d'aide, ou peut-être moral, ou peut-être peu importe, tu vas aller le soutenir dans la foi. Parce que c'est tough, la vie. Elle est tough, la vie à vivre. Puis on est là pour les uns pour les autres, pour se soutenir, parce que chacun, on vit notre vie, on est isolé souvent, mais dans le corps, dans l'Église, on doit se s'aider les uns les autres, s'aimer les uns les autres, être là les uns pour les autres. Hein? Et si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. OK, bon, n'oubliez pas ici, là, il a dit, si tu es spirituel, hein, que celui qui est spirituel, ben là, saute pas à la conclusion que nécessairement tu l'es, là. Examine-toi un peu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être séduit, on peut s'abuser nous-mêmes. Mais une manière de dire, ben écoute, tu peux avoir un regard qui est honnête envers moi. Quand je me regarde dans le miroir le matin et qu'il n'y a pas personne d'autre qui me regarde, ben je le sais quand je me revire de bord et je regarde ma bédaine. Mais c'est la même chose pour les autres domaines de ma vie. Quand je me regarde dans le miroir, quand je porte un regard honnête envers moi-même, je le sais si je rentre dans la catégorie des hommes spirituels ou des femmes spirituelles. Je le sais, là. Tu devant ton Dieu, là, lui, il voit tout. Fait que tu peux pas y en passer. Peut-être qu'aux gens autour de toi, tu peux leur en passer. Mais quand tu es devant ton Dieu, tu le sais, sois honnête, marche honnêtement avec Dieu. Puis marche honnêtement avec les autres. Puis surtout, sois vrai avec toi-même. Abuse-toi pas. Parce que c'est toi qui te fais du mal. Hein? C'est nous autres qu'on fait mal quand on s'abuse nous-mêmes. D'autres observations, qu'est-ce que le texte dit? Que chacun examine ses propres œuvres. Là, on se regarde dans le miroir. Pas nécessairement, oui, qui on est, on sait qu'est-ce qu'on... On connaît notre vie de pensée, là. On sait ce qu'on pense. On peut examiner nos propres œuvres. C'est ce qu'on fait. Parce que la foi, là, on est sauvé par la foi sans les œuvres, mais la foi va avoir des œuvres. Elle va produire des fruits, la foi. Il y en a parlé dans Galates, les fruits de l'esprit. Ça va avoir des fruits, ça va produire des œuvres. Donc, c'est important de voir comment, vous savez, là, on n'est pas dans l'interprétation, là. On est juste dans l'observation. Fantastique. On lit le texte, on porte attention au texte, on le morcelle, on le met en morceaux pour essayer de le bien digérer. C'est sûr que quand tu arrives avec une assiette de steak, ton steak est dans ton assiette ou, tu sais, ta grosse pièce de bouffe, ta coupe en morceaux pour la digérer, parce que elle pourra pas être digérée. Même chose avec un texte. Tu ne rends pas le texte de Galatis, tu ne le rends pas dans la gorge. Il faut que tu le morcelles, il faut que tu le manges, il faut que tu le médites, il faut que tu... Tu sais, mais tu commences par observer ce qu'il dit. Parce que la Bible, quand tu étudies la Bible, tu étudies ce que la Bible dit, pas ce que tu aimerais qu'elle dise. Puis trop souvent, quand on passe tout de suite à l'étape de l'application, là, qu'est-ce qu'elle veut me dire, c'est qu'on oublie complètement ce qu'elle dit. On prend nos désirs pour des réalités. Ça. Puis moi, je suis le premier à faire ça. Quand je retourne au texte pour lire ce que le texte dit, oh, là, ça me remet les pendules à l'heure. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui-même et non par rapport à autrui. Ça veut dire, hey, j'ai vraiment fait un bon coup, ce coup-là. Hey, je suis content de moi. Je suis tellement meilleur que l'autre. Non, 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 Patrice, tu dis pas ça. C'est correct que tu dises que tu es content de toi. Mais compare-toi pas à l'autre. Abaisse pas l'autre parce que tu as fait un bon coup. Ou tu dis pas, écoute, regarde tes œuvres, elle est bonne ton œuvre. Selon les Écritures, un critère objectif à l'extérieur de toi, Dieu dit c'est bon, tu confesses, c'est bon ce que j'ai fait. J'ai le droit, il dit, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Tu peux me dire j'ai fait un bon coup, mais que ça t'amène pas à une justice relative à l'autre, c'est-à-dire que je m'élève ou que je m'abaisse par rapport à l'autre. Hein? Ça, c'est important. Fait que c'est, tu sais, l'humilité, c'est pas de jamais se dire qu'on a fait des bons coups puis de dire, oh, je suis un écœurant, je suis un pourri, je suis un... Tu sais, une genre de théologie du ver de terre, là, que des fois on entend dans le milieu chrétien, là. Tu sais, que là, je suis un ver de terre, je peux rien faire. Non, non, OK, mais il y a des bons coups qu'on fait, là. Hein, il faut se le dire. Des fois, il faut le dire aux autres quand ils font des beaux coups. Hein? Mais il faut se le dire aussi. Il faut reconnaître ce qu'on a fait de bien ou de pas de bien. Parce que, c'est pas vrai que c'est tout pourri ce qu'on fait. Il y en a du pourri. Il faut se le dire aussi. Là. Mais qu'on se regarde les œuvres et qu'on se dise, « Hey, oui, c'est vrai, ça, j'ai fait un beau coup. » Ou non. Puis il faut être honnête. Car chacun portera sa propre charge. On a vu tantôt, on porte les fardeaux les uns les autres, mais il y a une charge que personne d'autre peut porter que moi. Puis ça, c'est ce que j'ai fait. Puis c'est quand je me tiens devant Dieu, j'ai une charge à porter devant Dieu pour moi seul. Pour moi seul. Je ne peux pas porter ce que l'autre a fait. Il y a juste un seul qui a porté le péché des autres, c'est Christ à la croix. Moi, je ne peux pas porter la charge des autres. Je peux les aider dans leur marche. Je peux leur offrir un coup de main. Je me souviens, j'étais à Québec, puis il y avait une petite madame autochtone qui était là, et puis là, elle avait une grosse boîte, une petite madame, je ne sais pas moi, elle avait peut-être 65 ans, 70, 70 ans, puis elle avait une grosse boîte, puis elle était là, puis elle marchait, puis elle avait sa boîte. Hey, je dis, madame, hey! Je dis, je vais vous aider. Non, mon petit gars, dans ma culture, moi, chez les autochtones, c'est les femmes qui portent les fardeaux lourds. Oui, ben, je dis, dans la mienne, c'est les hommes, fait que tu me donnes la boîte. J'ai porté son fardeau. Je l'ai aidé. Pourquoi? Parce que je la laisserai pas porter ça tout seul. Moi, c'est pas comme ça que j'ai été élevé, puis c'est pas vrai que sur mon chiffre, elle va porter une boîte lourde. Fait que, mais par exemple, ce qu'on est devant Dieu, le regard que Dieu porte sur nous, individuellement, je peux pas le porter à la place de l'autre. Il faut que je sois honnête devant Dieu pour moi-même, puis il faut que je laisse à Dieu le loisir d'être à l'autre d'être honnête devant Dieu pour lui-même. Je pourrais pas être là. Ah, ben, écoute, Dieu, tu sais. Non, mais il voulait pas dire ça, tu sais. Non, regarde. Non, c'est son père. Il est devant Dieu pour lui-même, cette personne-là. Puis il va falloir qu'elle assume les décisions qu'elle a prises. Il va falloir qu'elle assume les décisions qu'elle a prises volontairement, librement, en bien ou en mal, les conséquences. Hein? Bon. Observation encore, ce que le texte dit, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura le sujet de se glorifier. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, hein? Ouais. Bon, on continue. Alors, l'interprétation. Je vous ai juste mis une phrase, OK? Parce que je ne voulais pas prendre le temps de tout interpréter chaque passage. J'ai mis une phrase qui résume comme cette petite section de texte-là. Ça dit, le texte veut dire le souci de l'autre avec un regard lucide sur soi-même. Est le souci de l'autre. Aie l'autre à cœur, tout en te regardant avec lucidité. Lucidité, ça veut dire avec honnêteté. Aie un regard lucide sur toi-même, puis soucie-toi de l'autre. Aie l'autre à cœur. Amen? OK. Maintenant, qu'est-ce que le texte veut dire? Parce qu'il y a la passe d'application qu'on a dit, hein? Mettez en pratique la parole, et ça, c'est Jacques 1. C'est ça que j'écris souvent action à la place d'application, parce que l'application, c'est comment ça s'applique à moi, mais pour moi, l'application va avec l'action. Hein. Parce qu'il dit, mets la parole en pratique, borne-toi pas à l'écouter. Trompe-toi pas toi-même par des faux raisonnements. Sois honnête devant toi. Sois honnête devant Dieu. Trompe-toi pas toi-même. Si quelqu'un écoute la parole, elle ne met pas en pratique, ben c'est un homme qui se regarde dans un miroir et oublie qu'est-ce qu'il y a de l'air. OK, Galates 6 à 10. Ça, c'est l'autre petit bout hein, qu'on a vu, là, l'autre partie en vert du premier paragraphe de Galates 6. C'est pas en vert, là, c'est en mauve que j'avais souligné. Mais en tout cas, ça, c'est l'autre texte. Ce que le texte dit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, mais là, je suis en train de vous enseigner. Hein? Non, mais blague à part. C'est intéressant parce que là, on est... Attends un petit peu, là. Là, on est dans les années 40 ou 50. Hein? Fait que ça, oubliez pas que Christ est mort autour de l'an 33, 34. On est dans les années 40 ou 50, dépendamment quand est-ce qu'on date l'épître. Et puis... il y a déjà des enseignants payés. Déjà, pas longtemps, ça fait 10, 15, 20 ans que Christ est mort, que l'Église fonctionne. Les enseignants sont déjà payés, puis on s'attend déjà que les gens supportent leurs enseignants. Supportent les pasteurs. C'est intéressant parce que on a tendance à penser, ou en tout cas, certains auraient tendance à penser que tu sais, l'Église, c'était plus libre. Il n'y avait pas toute cette tu sais, il n'y avait pas les dons, puis tout ça, le support. Non. C'est déjà, Paul dit, écoutez, là, c'est dur, la vie d'enseignant, surtout dans un contexte où si t'es la tête de Turc, le deux de pique qui enseigne, pourquoi je dis le deux de pique? Parce que c'est lui qu'on vise. Quand dans un contexte de persécution, là, qui c'est que tu vas tirer en premier? Bien, c'est le berger que tu vas tirer. Hein, parce que c'est lui qui enseigne les choses que tu veux qu'ils soient réprimées. Fait que dans un contexte de persécution, c'est tough d'être quelqu'un qui enseigne. Puis souvent, il se fait, puisqu'il est enseignant, il va perdre sa job dans ce contexte-là, entre autres, où il va avoir des difficultés à juste subvenir aux besoins de sa famille, parce que ça prend du temps à enseigner, ça prend du temps à être berger d'un troupeau. Et donc, mais déjà, on dit, hey, déjà en dedans de 15-20 ans, prends soin de l'enseignant qui t'enseigne. Assure-toi qu'il manque de rien. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Parce que, et ça, on voit ça souvent dans la Bible. Je ne prendrai pas le temps, mais on est encore dans la phase d'observation, mais je veux quand même faire l'observation suivante, que dans la Bible, on voit souvent que si tu ne payes pas, c'est que tu te moques de Dieu. Si tu ne mets pas ta main dans ton portefeuille, là, hein, pour assumer aux besoins du peuple de Dieu, du temple, tu sais... dans Malachie, en quoi est-ce qu'on t'a volé? Mais vous m'avez volé, vous ne m'avez pas donné vos dîmes, vos offrandes. On voit, c'est quelque chose qui revient souvent. Hein? Trompe-toi pas, tu ne peux pas te moquer de Dieu. Les sous, ça, c'est moi qui t'ai donné, l'Éternel dit, ben, c'est aussi pour que mon œuvre avance. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Là, évidemment, il dit pas, il est pas en train de dire que si tu donnes, tu es sauvé par l'argent que tu donnes, là, ou par les œuvres que tu fais. Mais c'est quand même que celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Ça veut dire que tu vas récolter ici, tu vas avoir des récompenses terrestres, mais tu vas avoir des récompenses aussi l'autre bord, dans la vie éternelle. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Maintenant, l'interprétation, je vous ai mis encore une petite phrase rapide. Faisons le bien surtout envers les frères dans la foi, persévérons, on sera récompensés. Il ne faut pas perdre courage. N'oubliez pas, Paul est en train de terminer, dans le dernier chapitre de son épître, il les a frappés fort au début, là il les encourage. Écoute, lassez-vous pas de faire le bien, là. On a vu qu'il a été mordant un peu quand même, là, hein, dans le chapitre 6, mais écoutez les gars, là, si vous pouvez faire le bien, on va être récompensé, on va au moissonner. L'application, qu'est-ce que le texte veut me dire? Ben, je dois penser aux autres, à celui qui m'enseigne la parole, à mes frères et sœurs dans la foi, à tous les autres. il y a comme, il y a cette caractéristique-là dans le chapitre 6, parce qu'on voit que Paul pense à s'entraider, à avoir le souci des autres, hein? Souci de celui qui m'enseigne la parole, souci des frères et des sœurs dans la foi, souci de toutes les autres. Surtout, hein, à mes frères et sœurs, mais pas, ça, c'est pas à l'exclusion de tous les autres, au contraire. On doit se soucier des autres. Et Paul termine tranquillement son épître en disant ça. Bon, dernier petit bout, c'est la conclusion de l'épître. Qu'est-ce que le texte dit? Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Mais ça ici, là, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il dit ça, Paul? Mais parce que probablement qu'il y avait un secrétaire qui rédigeait sa lettre. Hein, on l'a vu dans je suis sûr que vous avez vu ça dans la série sur Galates, que Paul, il arrive en Galatie, puis il est probablement, il y a des problèmes de yeux, probablement, ou il y a un problème de santé grave, puis il peut probablement pas écrire aussi bien, tu sais. Fait qu'il y en a qui pensent que justement, les grandes lettres, c'est que, moi, ma mère, elle avait une très belle écriture, mais vers la fin de sa vie, elle voyait plus. Puis quand elle signait ou quand elle écrivait, là, les lettres étaient énormes, tu sais. Parce que pour pouvoir faire des belles lettres, elle était plus grande, puis elle était un petit peu déformée, tu sais. Fait que c'est comme si une des propositions qui ont été faites, puis je suis d'accord avec ça, c'est que les grandes lettres, le pauvre gars, il a de la misère à voir. Tu sais, il dit, les gars-là, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Tu sais. Il vous probablement qu'il y avait un problème. Là, tu sais. Ça ne devait pas être nécessairement très, très beau à voir. Tu sais, parce que quand tu as des problèmes de yeux, souvent, c'est, il y a peut-être du pu, il y a peut-être... Tu sais, ça ne devait pas être beau à voir. Puis le gars, c'était pas le meilleur orateur. On le voit dans Corinthe. Il n'est pas arrivé. C'est pas le meilleur parleur. Il était méprisable de vue, qu'il dit aux Corinthiens. Là, il craque des grandes lettres. Il a de la misère. Pauvre petit, tu sais. C'est dur, la vie, tu sais. Mais les gars l'écoutent. Puis ils se seraient arrachés leurs yeux pour lui donner tellement qu'ils l'aimaient, t'sais. Fait qu'il dit, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Fait que là, il est en train de signer comme, hein, je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables sur la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier. Alors, ça, c'est un thème qui revient souvent dans Galates. Puis je vais passer tout de suite à l'interprétation parce que ça va être plus simple. Bon. OK. Faites attention à ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Moi, Paul, c'est de vous que je me soucie. Dans le texte, dans l'interprétation du texte de ce passage-là, Paul va dire, faites attention à ceux qui ne se soucient que de vous-mêmes, que d'eux-mêmes. Parce qu'il y a il y a des gens, là, malheureusement, qui n'en ont que faire des autres. Et tout le monde sont vus par ces gens-là comme des outils pour se satisfaire eux-mêmes ou pour arriver à leur propre fin ou pour qu'eux-mêmes soient élevés ou qu'ils puissent se glorifier avec vous, tu sais, ou sur votre compte. Paul dit, faites attention à ça. Dans le cas des Galates, c'était... Il voulait qu'il se fasse circoncire. Au début de l'épître, Paul va dire, je pense au chapitre 2, j'aimerais ça qu'il soit castré, ceux qui veulent que vous soyez circoncis. Fait que Paul est écœuré de voir des gens qui veulent juste se servir, qui tirent profit des individus autour d'eux. Il dit, moi, là, c'est pas ça. Là. Moi, j'ai un cœur pour vous autres. Là. Fiez-vous pas à ces gens-là qui veulent se glorifier dans la chair. Moi, non, j'en ai rien à faire de ça. En ce qui me concerne, être circoncis ou pas, c'est rien. Faites attention à ceux qui se soucient que d'eux-mêmes et qui veulent. Paul dit, c'est de vous que je me soucie. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, à qui est-ce que je prête mon oreille? Qui est-ce que j'écoute? Quelqu'un qui a mon intérêt à cœur devant Dieu ou quelqu'un qui veut se servir de moi? Et ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que je peux être lucide, hein, parce que si je reprends ce qu'on a dit jusqu'à présent, Paul termine son chapitre 6 en disant, écoute, soucie-toi des autres avec un regard lucide sur toi-même, Mais regarde lucide quand même vers l'autre. Sois lucide. Laisse-toi pas enfirouaper, comme on dit au Québec. Laisse-toi pas avoir. Aie un regard lucide sur l'autre. Tu sais, tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu as un cerveau, tu ne soupçonnes pas le mal, mais tu as un regard lucide sur l'autre, tu as un regard lucide sur toi-même. C'est être honnête avec la réalité qui nous entoure. Tant la mienne, moi, être honnête devant Dieu, que ceux qui m'entourent. Puis fais attention à qui je prête l'oreille pour écouter n'importe quoi. On a vu au chapitre précédent les œuvres de la chair. Donc, en se s'observant soi-même, en évaluant nos propres œuvres, en regardant les autres comment est-ce qu'ils vivent, on peut dire, mais écoute, ne prête pas l'oreille à n'importe qui. Là. Fais attention à qui t'écoute. Puis on a la parole de Dieu qui est un guide sûr. Un guide sûr. Je ne dois pas tomber la proie de la chair des autres. Je ne dois pas être la proie de la chair des autres. Au contraire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils ou une fille de Dieu. Ça veut dire que j'ai une valeur. Ça veut dire que je suis un prince ou une princesse. Ça veut dire que je vais avoir un héritage d'autre bord. Ça veut dire que Dieu m'a à cœur. Ça veut dire que j'ai des promesses extraordinaires que Dieu m'a faites pour moi. Ça veut dire que j'ai pas besoin de m'abaisser, j'ai pas besoin de me laisser enfirouaper, j'ai pas besoin de dire, ben écoute, non, tu as la parole, évalue la parole, évalue ce qu'on dit. Si c'est de Dieu, si c'est scripturant, tu te soumets à ce qui t'est dit parce que c'est de Dieu. Hein? C'est tout. Et si c'est pas de Dieu, si c'est de la chair, si c'est, t'es pas irrespectueux, tu dis non. Si c'était moi, si je vous demande quelque chose de ma chair, ben, tu me disais, Patrice, tu es sympathique, je ne veux pas te manquer de respect, mais non. Et donc, c'est ça, c'est l'honnêteté qu'on doit avoir. Hein? Amen. J'ai quand même. Oups, je ne sais pas si c'est passé avec mon. Deux petites secondes, je pense que je viens de péter votre micro. Merci. Excusez, j'ai avalé de la salive dans un mauvais trou. Bon. OK, j'ai quand même pas fini l'épître. On va retourner en arrière. Puis je vais vous laisser avec ça. Paul va dire, observation, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle sur l'Israël de Dieu. Bon, évidemment, il y a paix et miséricorde sur deux groupes ici. Tous ceux qui vont suivre la règle. Puis aussi sur l'Israël de Dieu. Parce que l'Israël de Dieu, c'est un groupe différent qui peut suivre, qui va suivre la règle, mais c'est comme si le « et » ici, là, c'est une conjonction qui coordonne deux groupes, ceux qui suivent la règle, puis l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alors, vous voyez, quand je vous disais, là, Paul se soucie des Galates, là, ça me fait de la peine. Quand les gens abusent de vous, ça m'attriste, ça me fait de la peine. Que personne, et je porte les marques sur mon corps de Jésus, il a été persécuté pour la foi, il a à cœur les Galates, il dit que personne ne me fasse de la peine. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.